autour de l'an 2000, je vivais depuis longtemps en citoyen français, c'est mon pays, je n'en ai pas d'autre de nos jours. Mes contemporains ne pouvaient pas être heureux du simple fait que Paris, ce n'était pas Moscou ou n'était pas Sofia. Il y avait d'autres problèmes et ces problèmes me concernaient aussi.
Svetlana Todorov vient de nous quitter à la veille de ses 78 ans. C'était un homme dépaysé qui avait quitté la Bulgarie dans les années 1960 pour travailler à Paris. Il y a été un de nos grands intellectuels, courant à califourchon sur la linguistique, la philosophie, l'histoire. La puissance de sa présence était à la mesure de sa modération. Son expérience de la Bulgarie communiste l'avait fait rejoindre le combat antitotalitaire, mais il n'en resta pas là. Il critiquait fortement notre société démocratique, tombée dans le conformisme, travaillée par des tentations autoritaires. Dans ce double mouvement de lucidité, il affirmait le même attachement à un idéal. Idéal et non pas idéologie. La vie humaine n'est pas un drapeau. Ce qui l'intéressait, ce n'était pas les idées en soi, c'était les idées incarnées. De même que lorsqu'il avait étudié les techniques narratives à l'œuvre dans la littérature, ce qui l'intéressait d'abord, c'était la littérature. La signature humaine, en somme. La constance que manifesta Germaine Tillion dans ses travaux d'ethnologue et dans son attitude de résistance à signer sa vie, lui firent consacrer beaucoup de temps à sa mémoire. Nous rediffusons ici un entretien qu'avait donné à la Marche de l'Histoire Svetlana Todorov le 30 mai 2012.
La Marche de l'Histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Svetlana Todorov, bonjour.
Bonjour.
Vous présidez l'association Germaine Tillion. Quand vous l'avez connue dans ses dernières années, née le 30 mai 1907, elle est morte à 101 ans en 2008. Ce n'était ni une sainte de vitrail, ni la mamie Nova que les médias ont souvent décrite.
C'était une femme de petite taille. Elle ne courait plus. Mais son esprit continuait de courir. Et elle était malicieuse. Elle était prête à blaguer à tout instant. Aussi, l'une des premières choses qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'elle disait très facilement non. Vous lui dites quelque chose en croyant aller dans son sens. Elle disait non, non. Et elle le disait à sa façon. Elle tenait énormément à la précision.
Et avec son menton de paysanne, ensuite, elle cherchait à vous convaincre. Alors, vous êtes un homme, Svetlana Todorov, à la confluence de plusieurs mondes, l'Europe centrale, vous venez de Bulgarie, l'Europe occidentale, de plusieurs disciplines, la littérature, la philosophie. Elle avait choisi, dès l'avant-guerre, dans l'ethnologie, un point de convergence.
Elle a eu une adolescence, jeunesse assez indéterminée. Elle a suivi des enseignements très divers. Elle ne savait visiblement pas exactement dans quelle direction s'orienter, jusqu'à ce qu'elle rencontre quelques personnalités charismatiques sortant de l'ordinaire, parmi lesquelles la première place est tenue par Marcel Mauss, le père un peu de l'ethnologie française, qui nous paraît aujourd'hui un savant d'une extrême importance, mais d'après Germaine Tillion, ils étaient 5 ou 6 à assister à ses cours, aller du Collège de France à la Sorbonne ou inversement. Et c'est Mauss qui, au fond, va faire d'elle une ethnologue.
Et qui va l'envoyer, lui l'homme de la réflexion sur le don, en compagnie de Louis Massignon, autre maître de Germaine Tillion, l'homme de la réflexion sur l'hospitalité. C'est eux deux qui vont l'envoyer en 1934 en Algérie, où elle va faire un travail de plusieurs années chez et avec les Chaouya, c'est-à-dire une tribu semi-nomade dans les Aurès, au sud-est du pays. Extrait d'une conversation de Germaine Tillion avec François Goduchaud dans le film « Images oubliées » de Germaine Tillion.
Je ne voulais pas rester dans un endroit qui était en contact avec notre civilisation. Je voulais aller voir des vrais paysans dans leur vérité. Mais je me suis dit, après tout, n'importe où, pourvu qu'on ait un angle de visée. Voyez-vous, un angle, quand vous voulez savoir la distance d'un astre, vous faites 2 angles. Voilà. Et bien moi, j'avais besoin de 2 angles pour voir l'origine, les origines humaines.
Et les deux angles, c'était quoi alors ?
Eh bien, c'était n'importe quel autre pays et le mien.
Et l'autre.
Mon travail, c'était de comprendre l'endroit où j'étais, d'enregistrer ce que me disaient les gens, de noter, de faire des photographies, de comprendre chaque détail de la vie quotidienne. Ce fait ce travail d'enregistrement et de compréhension à cheval. À cheval, à travers des montagnes escarpées, sans route, etc., etc.
Enregistrer, noter, photographier, en compagnie de Thérèse Rivière, parce qu'elle n'était pas seule dans les Aurès au début, et ne jamais questionner. Leçon pour les journalistes.
Oui, Germaine Tillion a été très rapidement, est devenue très rapidement consciente de ce que la question présuppose un peu trop la réponse. Si on, vous devez connaître ça avec les sondages, tout dépend de la manière dont la question est posée, on peut obtenir des résultats opposés. Dans son cas, elle s'est rendue compte de cela et du fait que ces indigènes autour d'elle, qui l'entouraient, avaient envie de lui faire plaisir. Donc si elle posait une question très précise, ils étaient prêts à lui raconter un roman. Donc elle a adopté une attitude opposée qui consistait à ne pas poser de questions, mais à partager leur vie, à les observer. Et au bout d'un moment, tous les anciens du village, les femmes, les hommes, venaient lui raconter leurs histoires. C'est cela qu'elle a enregistré.
Non, mais nous autres journalistes, nous connaissons la facilité qu'il y a à poser des questions à d'autres et le danger qu'il y aurait à s'en poser à soi-même.
Je pense que Germaine s'en est posée énormément, mais un petit peu plus tard. On y arrive.
Enfin, tout de même, en matière d'ethnologie, elle a posé aussi les questions classiques de l'ethnographie de son époque, les systèmes d'hérédité, les relations dans les familles.
C'était une disciple donc de Marcel Mauss qui enseignait que l'ethnologue doit étudier le fait social total. Et donc, Germaine Tillion a rassemblé une quantité d'informations absolument effarantes qui a été entièrement perdue au moment de son arrestation et de sa déportation.
Mais d'abord, elle rentre le 9 juin 1940 en France. Vous dites qu'elle s'intéresse au fait social total. Enfin, elle n'a pas une culture politique particulière. Elle ne s'est pas intéressée au nationalisme algérien tellement quand elle était dans les Aurès. Et arrivée en France, elle n'appartient pas à une famille idéologique.
Non, elle n'appartient pas à une famille. Elle raconte quelque part qu'elle se sentait appartenir à la famille des gens modérés qui étaient capables d'écouter aussi bien les amis que les adversaires de chaque thèse. Elle mettait plus haut que les thèses politiques la qualité humaine. Et donc, elle n'avait pas, en plus, de culture politique particulière. Mais même, elle a su traverser la résistance sans s'engager clairement dans un courant quelconque, ce qui lui a permis de participer à tous les courants, d'une certaine façon.
Alors, elle a assez de coups d'œil pour repérer deux colonels de vieille souche patriotique avec qui elle travaille, et puis de chercher chez ses collègues du musée de l'homme, ceux qui pourraient poser avec elle des gestes qui fassent sens.
Au départ, il faut se représenter une France complètement écrasée, sidérée, dans laquelle rien n'était prêt. Et on n'avait pas prévu une occupation allemande, on n'avait pas prévu des groupes de résistance. Tout ça, ça a été d'abord des toutes petites unités familiales engagées dans ce qui est interdit. C'est-à-dire aider des évadés, cacher des gens, leur fournir des papiers d'identité, etc., etc. Alors, toutes ces petites choses interdites ont fait que les groupes ont eu besoin d'aide, se sont donc raccordés, et c'est la naissance des premiers réseaux. Et ensuite, nous avons eu des quantités d'informations militaires dont nous ne savions absolument pas quoi faire. Il nous a fallu, à ce moment-là, trouver un moyen de communication avec Londres.
Alors, pas de récit lyrique, hein. C'est comme une pelote, un tricot. Elle emploie le mot grumelage, une opération de cuisine.
Oui, elle ne chantait pas des dithyrambes, mais elle tenait énormément à cette période qui a été sa première grande école d'esprit citoyen, si l'on veut. Je me souviens qu'elle a écrit aussi, de façon assez critique, son opinion sur le film « Le chagrin et la pitié », car elle trouvait que des films comme celui-là sous-estimaient excessivement l'engagement du peuple français dans la résistance. Il suffisait d'un traître pour faire arrêter 150 personnes, disait-elle. Eh bien, très souvent, il n'y en avait aucun de traître.
Enfin, dans le cas du Musée de
dans
l'Homme...
Dans son cas, il y en a eu, dans le cas du Musée de l'Homme aussi.
Même un abbé luxembourgeois qui poussait donc ses paroissiens à s'engager dans la résistance pour ensuite les dénoncer.
Germaine Dillon, vous avez été arrêté le 13 août 1942.
42.
Vous êtes resté à Fresnes pendant
14 mois
et ensuite.
Ensuite, Ravensbrück tout le temps.
Votre mère a été arrêtée en même temps que vous.
Ma mère a été arrêtée en même temps.
Elle était avec vous dans le camp.
Ma mère était avec moi dans le camp, oui. Je préfère pas parler ça.
Comment étiez-vous à votre retour?
Écœurée de la vie, vraiment, écœurée. Je me souviens d'un sentiment, c'est curieux d'ailleurs, toute la période qui a suivi mon retour de captivité, où je l'ai oublié, où les choses dont je me souviens, je les vois comme à travers un brouillard noir. Il me semble que c'est le moment où j'ai le plus souffert.
Tout de suite après?
Tout de suite après. Je crois qu'il n'y a pas, en fait, cette, l'idée de la mort, comme une chose tentante, a dû être présente à l'esprit de tous les déportés, ou après leur déportation. Et je crois aussi que, au fond, l'idée de la mort vient, est d'autant plus présente qu'on est moins en danger. Ça expliquerait peut-être le fait que certains déportés, dont je ne suis pas, mais je reconnais, aiment le danger.
On l'a reconnu face à Germaine Tillion, Pierre Dumayet, qui doit questionner. Alors, Ravensbrück, avant et encore après, dit-elle, c'est l'expérience absolue du mal et du désespoir. Et en même temps, elle va décortiquer constamment, dès les premiers jours, dès son arrivée en 1943, le fonctionnement du camp.
Germaine Tillion a eu une réaction au camp assez singulière. Il faut dire que la plupart des femmes avec qui elle était déportée étaient dans la vingtaine. C'était des très jeunes femmes. Elle-même est née en 1907, donc en 1942, elle avait presque le double d'âge. Elle était d'une autre génération. Et elle a su garder son calme et sa lucidité. Et elle a décidé qu'elle pouvait traiter ces conditions atroces du camp comme un objet d'observation quasi ethnologique. Et cela l'a sauvée une première fois en introduisant une distance entre ce qu'elle vivait et elle-même, en la plaçant dans le rôle d'un observateur détaché, au fond, impartial, qui voit tout. Elle a remarquablement bien analysé le camp dès le début, et ses camarades de déportation racontent qu'au bout de quelques mois, elle a pu leur faire des conférences, des véritables conférences scientifiques entre deux baraques où elle expliquait le fonctionnement économique du camp.
Et là, c'est une affaire d'angle encore et une joie de l'intelligence quand elle peut leur dire, voyez, Himmler, il est le chef hiérarchique du chef du camp. Et le terrain du camp, il appartient à Himmler.
Comme par hasard, ouais. Appartient au même Himmler.
Et les serres d'Himmler, et les serres du camp appartiennent à Himmler.
Donc,
et la compagnie
avait...
dans laquelle vous travaillez, disait-elle à ses compagnes, l'actionnaire principal, c'est Himmler.
Donc c'était visiblement très utile pour mieux résister que de comprendre. Elle a compris elle-même à ce moment à quel point la compréhension d'un fait signifie aussi un bouclier.
La sauvagerie existait à Ravensbrück. Vraiment, nous avions affaire à des sauvages.
Vous dites que votre expérience des Aurès vous a servi dans le camp.
Elle m'a servi simplement pour structurer le camp. Alors, il y avait donc le travail, la mort et l'argent. je me suis dit, il y a moyen de faire une enquête approfondie sur le camp, puisque en réalité, tous les SS font exécuter leurs travaux par une classe de prisonnières. Donc, en posant des questions ciblées à toutes les prisonnières, on peut déchiffrer tout ce que font les seigneurs, les princes du camp. Il est certain que lorsqu'on éclaire un monde même affreux, en quelque sorte, on le domine.
Alors, à Ravensbrück, elle peut faire une conférence, plusieurs conférences à ses compagnes, mais aussi bien préparer pour elle une opérette sur des timbres connus. Elle écrit des textes, ici sur l'air de « J'ai fait un beau voyage, Ciboulette, Reynaldo, Anne ». Elle décrit tous les coins de France avec leurs spécialités culinaires, dont les détenus sont privés. La crème de Normandie, la quiche de Lorraine, le jambon de Bayonne.
J'aimerais tellement manger quelque chose qui ait un goût sucré, un goût de beaucoup.
Devinez ce que nous aurons aujourd'hui pour le déjeuner.
Du mutabaga.
Nous avons fait un beau voyage, nous avons fait un beau voyage. Nous arrêtons à tous les ports,
nous arrêtons de tous les pas.
Un tuyau comme tout bagage,
un tuyau comme tout le bagage.
Toujours vers l'est nous vendons,
toujours vers l'est
nous vendons. Nous avons dégusté du beurre et du pâté, de la crème à Normandie,
du fromage de brie.
En rien que ça nous manque, tranquilles et venons.
Bénissons Mélanie, et sa table bien garnie.
Nous mangeons avec joie le foie gras strasbourgeois.
Celui d'Aquitaine et la quiche lorraine.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Germaine Tillion, 1907-2008, avec le président de l'association Germaine Tillion, le philosophe Sevehan Todorov. Alors après-guerre, elle constitue la mémoire de son réseau de résistance, le Musée de l'Homme. Elle fait connaître à Ravensbrück un extraordinaire livre sur le camp, 3 éditions successives. Et elle veut aussi faire découvrir le goulag. Quand vous l'avez connu à la fin de sa vie, elle s'intéressait beaucoup à votre point de vue sur la question. Vous, le Bulgare issu du pays de charme du communiste Dimitrov.
Je dirais d'abord que le point important à son retour a été cette grande dépression qu'elle évoquait dans l'entretien avec Pierre Dumayet et qu'elle a réussi à s'en tirer en se chargeant d'un travail de fond, un travail d'historien. Elle a, et ce n'est pas rien comme décision, elle a changé de métier. Au lieu de continuer l'ethnologie des Chaouias, de l'Algérie, elle est devenue historienne du XXe siècle, spécialiste de la Deuxième Guerre mondiale. Elle a recueilli une information très étendue, mais elle ne s'est jamais contentée d'un travail purement scientifique, purement historique. Et pour cette raison, elle s'est retrouvée à la tête ou dans des rôles importants des organisations d'anciens déportés. Et c'est dans ce cadre aussi qu'elle a soutenu l'action de David Rousset.
David Rousset, qui s'était opposé au procès lancé par les communistes contre Kravchenko, qui essayait d'expliquer, entre autres, qu'il pouvait y avoir des détenus des camps nazis qui
surtout
se retrouvaient
David
au goulag.
David Rousset a lancé un appel qui a fait très mal dans les milieux des anciens déportés, parce qu'il a dit que les anciens déportés devaient se considérer comme des experts en matière de camps de concentration et que par conséquent, ils devaient lutter avec toute leur force contre les camps de concentration toujours existants. Or, ces camps existaient certes dans quelques pays fascistes comme l'Espagne ou la Grèce, mais surtout énormément dans les pays communistes, ce qui a entraîné des conflits très aigus dans les milieux de déportés, et Germain Tillion a été entièrement engagé du côté de David Rousset.
Alors, peu aimée dans certains milieux communistes, en plus elle était gaulliste, elle va retrouver ce rôle d'experte, mais on va dire experte en humanité, c'est pas le sens moderne courant dans le journalisme, quand elle retrouve l'Algérie en 1955, elle a été envoyée là-bas par Mendès France et Mitterrand, comme Jacques Soustelle, qui est nommé gouverneur général de l'Algérie et qu'elle connaît.
Elle connaît Soustelle puisque tous les deux sont des ethnologues, ils ont appartenu au même groupe même si elle n'est pas très proche de lui et puis ils n'avaient pas exactement les mêmes convictions à l'époque où ils étaient des jeunes chercheurs liés au Musée de l'Homme. Soustelle était plutôt communisant alors que Germain Tillion, on l'a vu, elle était plutôt une modérée qui parlait aussi bien avec les gens d'Action française qu'avec les communistes.
Enfin, il n'empêche, au début de 1955, il veut en Algérie mener de front la pacification et l'intégration, et c'est pour cela qu'il a appelé à son cabinet Germain Tillion, et comme Germain Tillion est experte aussi en action, elle va s'accrocher de toutes ses forces à ce double idéal et lancer en 55, toujours en octobre, le pendant des sections spécialisées de l'armée, les centres sociaux avec des moniteurs, éducateurs, formateurs.
Quand j'ai vu l'énorme épuisement de l'Algérie, l'énorme épuisement financier des familles, j'ai pensé que la seule chose qui était faisable, c'était de nantir les paysans algériens d'un outillage leur permettant de survivre dans une ville. Et c'est pour ça que j'ai conçu les centres sociaux. Les centres sociaux, c'était un moyen de permettre à ceux qu'ils voulaient d'accéder à l'enseignement le plus élevé et ceux qui ne le voulaient pas d'avoir un métier. J'ai considéré que n'avait pas le droit de faire passer une paysannerie à l'état de citadin sans lui offrir un métier par personne.
C'était son idéal de fraternité. Jacques Soustelle l'a abandonné plus vite qu'elle, retourné par les massacres initiés volontairement pour cliver par le FLN à l'été 55. Elle va continuer jusqu'au bout sur cette voie. Et si mutation il y a, de son point de vue sur l'Algérie, c'est pas du tout comparable à la mutation de Jacques Soustelle. C'est
en
même
fait,
exactement l'inverse.
En fait, quand elle arrive en Algérie à la fin 54, début 55, elle n'est pas arrivée pour travailler avec Jacques Soustelle, elle est arrivée envoyée en fait par Massignon et d'autres personnes qui sont inquiètes de voir ce qui est en train d'arriver, le début de la guerre. Et elle se dit que la grande raison de ce qu'elle voit là de la guerre, c'est ce qu'elle appelle la clochardisation de la population algérienne. Donc il faut essayer d'aider cette population. En somme, elle veut, dans un premier temps, améliorer la colonie. Donc elle passe notamment par le cabinet de Soustelle, mais elle revient peu de temps après en France, elle encourage ses centres sociaux. Mais cela ne dure que quelque temps. Au bout d'un moment, elle se rend compte que les choses ont changé, et notamment que la généralisation de la torture rend tout arrangement impossible. Cela se passe à peu près au début de 1957.
C'est-à-dire au moment de la bataille d'Alger.
Au moment de la bataille d'Alger.
Elle n'a pas peur de l'expérience de la violence. Elle en a plus d'expérience qu'un Jacques Soustelle. Elle n'hésite pas à rencontrer, s'il le faut, pour en faire part à qui de droit, des indépendantistes les plus violents d'en face, par exemple dans la Casbah, Saadi et Ali Lapointe, qui étaient les chefs de la rébellion.
Sur le canapé, il y avait assis Ali Lapointe, avec sa mitrailleuse sur les genoux, et en face de moi, sur un fauteuil, Yassef Saadi, aussi avec sa mitraillette en travers des genoux. Avec émotion, Yassef me dit, vous voyez que nous ne sommes ni des brigands, ni des assassins. Et alors, à ce moment-là, j'ai un choc, et avec beaucoup de tristesse et beaucoup d'émotion, je leur dis très gravement, vous êtes des assassins. Et à ce moment-là, il a un choc lui aussi. Et il me raconte l'attentat de la Casbah. Attentat de la Casbah qu'il avait lui-même ordonné et qu'il a été ensuite regardé. Et dans l'attentat en question, il y avait un jeune homme qui était un de ses camarades, pied noir, qui avait été tué, et la fiancée de ce jeune homme qui avait eu une jambe arrachée. Alors il l'a vu et il me dit « j'ai pleuré ». J'ai dit « bon, arrêtez ça ».
J'ai pleuré, c'est peut-être déjà un moyen de sortir de ce face-à-face vertigineux. Vous êtes un assassin, vous en êtes un autre.
À partir de ce moment, à partir du début de 57, Germaine Tillion change tout à fait d'attitude. Ce qu'elle va essayer de faire, c'est d'empêcher la violence de grandir, de se renforcer. Et pour cela, elle n'hésitera pas, d'une part, de rencontrer les personnes comme Ali Lapointe et Yacef Saadi, c'est-à-dire les chefs de l'insurrection, mais d'autre part, d'enquiquiner sans fin ses anciens camarades résistants ou combattants des forces françaises libres, qui sont maintenant ministres.
Dans le cabinet du général de Gaulle, à commencer par Edmond
avant
Michelet.
Même, oui, avant même avant le général, même le général de Gaulle, il y avait des représentants de la résistance. Et donc, elle va les tanner pour arracher des individus à la torture, pour les arracher à la peine de mort, et ceci de façon infatigable jusqu'en 1962. Évidemment, le retour de Gaulle au pouvoir en 58 lui a facilité la tâche. Elle était non pas proche de Gaulle, mais elle était proche de Geneviève de Gaulle, qui était une déportée. Et
elle avait du respect pour le général de Gaulle.
Elle avait du respect. Et
vous racontez,
et c'était un respect partagé.
Vous racontez qu'au moment de l'enterrement de Colombet en 1970, après avoir donné le coup de goupillon traditionnel sur le cercueil, elle passe le goupillon et la personne suivante.
Elle, c'était le général Massu.
Dites-moi, je voudrais vous faire parler de la distinction entre cette pensée en action et la figure traditionnelle de l'intellectuel engagé, tel que vous, Bulgare, arrivé en France, vous n'avez cessé de la connaître et parfois de la dénoncer.
Germaine Tillion a été engagée d'une façon très particulière. Elle a été changée intérieurement par son travail scientifique. Et l'être qu'elle était devenue a travaillé différemment à partir de là. Il y a un va-et-vient constant entre Germaine Tillion savante et Germaine Tillion militante. Je dois insister sur un point qui concerne la guerre d'Algérie. Il y a eu beaucoup d'anciens résistants, d'anciens combattants qui se sont engagés et qui se sont trouvés du côté de la défense de l'Algérie française, puisque c'était une autre manière de défendre la patrie. Germaine Tillion a eu le courage, elle, la patriote, de constater qu'on torturait dans les geôles françaises de la même manière que dans les prisons de la Gestapo. Autrement dit, de reconnaître qu'au-delà de la différence des peuples, il y avait un devoir d'humanité, de justice, de vérité, et que c'était la seule chose qui comptait désormais pour elle.
Et inversement, que le mal pouvait infecter n'importe quelle nation.
Le mal pouvait se trouver aussi bien chez nous que chez les autres, mais on avait un plus grand devoir de le combattre lorsqu'il était présent chez nous.
Svetlan Todorov vient de disparaître. Cet entretien a eu lieu le 30 mai 2012.